Allons-y, allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bien le bonjour les amis, soyez les bienvenus à la table des bons vivants, votre rendez-vous du samedi. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Alors vous le savez, hein, du marché à la cuisine, en passant par l'actualité de notre alimentation, le menu est varié. Adepte d'une cuisine honnête, de saison et à la portée de tous, le bistronome Yves Condebord est venu avec son bon sens. Bonjour Yves.
Bonjour Laurent.
La mine réjouit.
Toujours,
mais
toujours.
Je vois,
le
je
beau
vois.
Temps qui arrive, mais le printemps ça. Qui est là.
Un joli week-end qui s'annonce avec du soleil.
Un magnifique week-end qui s'annonce, plein de bonheur et de joie.
Il a son verre, son tire-bouchon, il ne lui manque plus que la carafe. Olivier Pouls, notre expert en bonne qui est avec nous. Bonjour Olivier.
Eh bien bonjour, et je suis tout aussi joyeux que Yves, figurez-vous.
Marion Sauveur nous rejoint dans un instant avec son journal de la cuisine. Jean-Luc Petit-Renaud nous chantera le temps des cerises un peu avant midi moins le quart. Et puis nous allons nous intéresser à la cuisine californienne. Alors bien loin d'Hollywood, hein, une cuisine bienveillante et respectueuse de l'environnement, vous entendrez. Et puis dans la collection printemps 2019, je demande le petit pois, une petite perle verte que nous allons récolter et cuisiner. C'est la fin de la saison, il faut en profiter. Et puis nous prendrons large aussi sur les coups de midi pour un plat du jour signé Alexandre Couillon, un grand chef cuisinier à Noirmoutier qui a cuisiné un merlan que nous partagerons avec Jacques Attali qui vient de sortir un livre passionnant sur l'alimentation. Voilà. Le menu est riche et varié, on peut commencer. Voilà, ça change de la spéciale pique-nique de la semaine dernière. Au passage, merci à tous les auditeurs pour leurs gentils messages. Merci encore aux équipes techniques d'Europe 1 pour cette belle spéciale pique-nique. On refera peut-être une spéciale barbecue, je ne sais pas ce que vous en pensez, Yves Condebord.
Oui, totalement. Je pense que c'était... C'est vrai, c'est un bon moment de partage. C'était joyeux, on était bien, on était au soleil. J'ai trouvé ça très agréable.
Des vins bien choisis par Olivier Pouls.
Oui, et puis moi, je peux fournir le barbecue si vous voulez. Il n'y a pas de souci. À charbon, évidemment.
Ah, ben évidemment. Ah, évidemment. Ah, oui, on fera un débat sur le barbecue. Alors, c'est le printemps entre les fraises, les asperges et les cerises. Tous les goûts sont dans la nature. Quel goût, justement, a marqué votre semaine? Eh bien, on va commencer par vous, Yves Condebord. Quel est votre goût de la semaine?
Mais moi, je reste un éternel enfant. Donc là, c'est un bonbon. C'est un caramel mou passion mangue de Jacques Genin.
Ah, ah oui, je connais. Alors ça, c'est...
Alors je peux vous dire que Laurent, que c'est d'un équilibre, c'est d'une fitness, c'est moelleux, ça a juste ce côté gras qu'il faut, qui fonde dans la bouche. Ça reste, c'est surtout pas élastique, c'est surtout pas collant.
Il colle pas aux dents celui-là.
Il colle pas aux dents, c'est sans additifs, c'est sans colorant, c'est vraiment un produit frais. C'est une petite merveille.
Jacques Genin, que nous recevrons, qui est un fondeur du chocolat et qui a plusieurs boutiques dans Paris et qui est un homme passionnant.
C'est un homme passionnant, c'est un homme passionné, c'est un artisan exceptionnel en autant en chocolat. Et là, c'est le bonbon, je le redis, le mangue passion, magnifique.
Olivier Pouls, votre goût de la semaine, mon ami.
Eh bien moi, c'est un champignon qu'on ne trouve que pendant une très courte période. Est-ce que vous connaissez l'amanite des Césars ou l'orange?
Alors,
alors il est particulier parce que quand on le voit au départ, c'est un œuf, il est tout blanc. Et alors il va sortir de sa coquille et c'est un magnifique champignon rouge ensuite qu'on peut manger évidemment, qui est comestible, qui est d'une finesse absolue. On le mange façon carpaccio, donc tranché très finement en lamelles, avec juste un petit filet d'huile de noisette, par exemple, pour remonter encore ce goût de noisette naturel qu'il a. C'est une merveille.
Et ben voilà, on prend un beau carpaccio, c'est cru, c'est simple à faire pour
trouver
le week-end.
Trouver des oranges, exactement.
Alors mon goût de la semaine, moi c'est la carciofi, c'est une pizza à l'artichaut de chez Grazier. C'est un restaurant italien qui est boulevard Beaumarchais entre la Bastille et République. Si vous êtes de passage à la capitale, ça fait partie des meilleures pizzas de Paris pour moi, vraiment. J'ai fait ça avec mon fils, c'était un joli moment au comptoir, une belle pizza avec une crème d'artichaut, de l'artichaut cru par-dessus et leur pâte. Elle est ultra fine, elle est croustillante, ça s'appelle Grazier et c'est à Paris. Voilà. Maintenant, direction...
Grazie mille.
Si, absolument, prego. Direction Cavaillon. En attendant l'arrivée du melon, les habitants trouvent plein d'idées sur le marché. Les Cavaillonnais au micro de Marion Sauveur, c'est tout de suite.
Mais là, j'ai acheté des abricots de pays,
des olives,
du melon d'Espagne. C'est vrai que c'est les premiers qu'on achète, les melons verts. Chez nous, il n'y en a pas de cela. Voilà, et en même temps, on fait notre tour avec le beau temps, on en profite.
Ma petite marchande de légumes derrière, j'ai courgettes, radis, là je viens d'acheter des carottes.
Ben, on a acheté des fromages de chèvre, hein. On a un petit producteur sur la petite place derrière là qui sont excellents. Et puis quelques fèves, parce que la semaine dernière on les a goûtées, on les a trouvées très bonnes, alors on est revenu en chercher.
J'ai acheté des abricots, des cerises, des produits de saison, des produits du coin de Cavaillon. Quoi.
Voilà, les gens ils sont très contents de revoir les courgettes. Alors ça, les salades, les courgettes et les radis, voilà, ça part très vite.
J'achète des
des œufs à mon petit marchand d'œufs, parce que ce sont des œufs de poules en liberté. J'ai acheté du poisson, j'ai acheté des nèfles, j'ai acheté des abricots, j'ai acheté des cerises et des fraises. Des produits de la région, déjà, et qui normalement ne sont pas traités.
Mais quelle belle région! Mais c'est le verger de la France, c'est ce qu'on disait, Yves Candebord.
Oui, oui, tous ces marchés paysans là, dans cette région du Luberon, autour d'Avignon, autour de l'Haut-Marin, c'est assez incroyable. C'est vrai qu'ils ont la chance d'avoir des produits d'une qualité exceptionnelle.
Là, on était à Cavaillon, c'est sublime.
Et toujours un peu en avance par rapport à nous.
Ah, bah carrément, alors, par rapport au nord, il y a presque un mois d'écart. Olivier Pouls.
Petit carton jaune quand même, pas de melon d'Espagne quand même.
Bah, en attendant le melon de Cavaillon, c'est pas le même, hein, le melon d'Espagne, c'est le vert, là, vous savez. Avec la chair blanche.
Oui, oui, mais c'est quand même moins bon.
Ah bah oui, mais justement, ils vont se régaler avec le Cavaillon qui arrive d'ici peu de temps.
Eh bien, je préfère l'attendre.
Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi, vous le savez. Tiens, devinette, les amis. Qu'est-ce qui est petit, vert et qui passe à la radio ?
Des petits pois.
Exactement, elle était dure, hein, celle-là. Oh, c'est, elle était compliquée. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Restez avec nous.
Et le mars.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
En ce début de mois, la table des bons vivants a décidé de s'intéresser à un légume vert bien connu, le petit pois. Et il faut en profiter très vite, Laurent.
Absolument, Justine. La table des bons vivants en croque pour le petit pois ce samedi matin. Alors, c'est la fin de la saison hein, de cette petite bille herbacée. C'est vrai que sa présence parmi nous est fugace, mais elles sont là encore un petit peu avec les chambres froides. On va encore en profiter un bon 15 jours. De belles causes vertes sur nos étals. Il n'y a plus qu'à écosser pour se régaler. Et l'amour des Français pour le petit pois ne date pas d'hier. On en est fou depuis Louis XIV, Olivier
ben
Pouls.
Oui, vous saviez ce que Madame de Sévigné disait à propos des petits pois ? Le chapitre des pois dure toujours, l'impatience d'en manger, le plaisir d'en avoir mangé et la joie d'en manger encore sont les trois points que nos princes traitent depuis quelques jours. Heureusement qu'on me l'a écrite parce que je ne la connais pas par cœur,
oui, c'est ça.
Mais ça témoigne bien de l'intérêt qu'on avait dès Louis XIV, effectivement. Alors, il faut savoir qu'avant, on ne connaissait le petit pois que dans sa version déshydratée, le petit pois sec.
C'est vrai ?
Eh oui, mais c'est l'officier de bouche de Louis XIV qui en a rapporté une cagette de petits pois frais d'Italie. Et alors là, bingo, succès total. Et depuis, à la table des rois et à notre table, le petit pois s'invite.
Et la Quintini qui était le jardinier de Louis XIV, on peut encore d'ailleurs visiter le potager du roi aujourd'hui qui est un endroit magnifique, s'est mis à cultiver des petits pois pour Louis XIV. Et vous savez que Louis XIV en était complètement dingue, des petits pois, mais il avait une malformation, Louis XIV. Il avait un trou dans le palais, il adorait manger des petits pois. Et quand vous mangez avec Louis XIV, eh bien parfois, il rejetait des petits pois par son nez parce qu'il avait un trou dans le palais. C'est étonnant pour un roi. Et je vous assure que quand il parlait, il y avait des petits pois qui sortaient du nez.
Oui, c'est assez original.
Oui, absolument. C'est un ami qui l'a bien connu qui m'a raconté ça. Allez, c'est l'heure d'aller les récolter. Justement, il y a plein de variétés. Hein, la merveille de Quévedon, la douce Provence. Marion Sauveur aussi en croque pour le petit pois. Elle nous emmène dans le Gard, chez Armand Tourvieille, à la maison du paysan, pour faire une belle récolte. Allons-y au milieu du champ de petits pois.
On est dans une serre où il y a deux cultures en place qui sont les petits pois et les mange-tout. Le petit pois, c'est un buisson, à peu près d'une hauteur de 1,50 m à 1,60 m.
Et ça fait de jolies gousses.
Ah oui, en principe, ça fait de très belles gousses, oui. Il faut qu'il soit dodu, que les graines soient formées à l'intérieur. Il faut attendre que justement la gousse puisse grossir et là, vous le voyez. Et à ce moment-là, vous le ramassez.
Là, ça y est, regardez, celles-là, elles sont bien dodues, non ?
Oui, tout à fait. Il faut pouvoir s'en tirer, parce que vous le cassez, si vous tirez, la prendre entre ses doigts, là, entre l'index et l'ongle, et vous coupez.
Voilà. On récolte toujours à la main de cette manière-là.
Ah oui, c'est tout enfermé. Les gousses, par elles-mêmes, elles sont longues, en deux parties. Et quand on l'ouvre, elles s'ouvrent que d'un côté. Hein, et elles laissent apparaître les graines qui sont à l'intérieur. Et l'intérêt, c'est de manger les graines.
On goûte cru, justement ?
Ben, avec plaisir. Hein. Il est très bon. C'est craquant, hein. Très sucré, très frais, ils viennent d'être cueillis. Là, elle est au summum, comme on dit.
Merci beaucoup, Armand. On les a avec nous, ces petits pois. C'est un bonbon, Yves Candebord.
Et Laurent, j'allais le dire, c'est vraiment un deuxième bonbon. Après la passion mangue, c'est le petit pois dans cet état-là.
C'est un truc de dingue.
Il le dit, c'est le summum.
Et mais puisqu'il faut faire, il faut les manger crus, il a raison.
C'est-à-dire
c'est un scandale de cuire ça.
Il n'y a pas à les cuire.
Non, Olivier, vous avez raison, Olivier. La vraie différence qu'il y a aujourd'hui, maintenant, avec les petits pois, c'est qu'avant, on les cuisait de façon classique, à l'anglaise, bouillis dans de l'eau, ou à la française, ils étaient rôtis au beurre avec des petits oignons et des salades et avec un petit jus de viande. Mais quand on a ce produit dans cet état-là, ces tout petits pois, il faut les manger crus.
Exactement.
On les chauffe juste dans une poêle avec un tout petit peu de beurre,
ouais, même
juste pour les tiédir.
Et donc, si on veut en manger hors saison, c'est du surgelé, mais pas de la conserve, parce que la conserve, je trouve, dénature le goût du petit pois. En surgelé, si on veut se faire une soupe de petit pois frais à la menthe, par exemple, ça marche bien, Yves Candebord, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Mais... Le surgelé, voilà, je dis toujours le surgelé, c'est une forme d'urgence, Laurent.
Oui, exactement.
On sait que nutritionnellement, le surgelé, la conserve ou le frais, c'est identique. Mais le
surgelé,
goût,
c'est mieux pour les vitamines. Hein.
C'est encore mieux pour les vitamines. Mais le goût, le vrai goût, c'est le frais. Et quand on a des petits pois comme ça, moi, je les adore avec une menthe ciselée, juste roulée, à peine un peu d'huile d'olive, mais pas de gras,
oui,
juste pour les tiédir, qu'ils restent crus. Et après, un petit trait de vinaigre dessus, petit pois, une pointe de vinaigre et une menthe ciselée. C'est vraiment une dégustation qui est très profonde, qui est vraiment très agréable.
Et puis à l'atelier écossage en famille, qui est quand même
bien
sympa
sûr,
aussi.
Ben on
là,
discute
on est tous autour de la
mais
table.
Évidemment.
Chacun son tas de petits pois et puis on est parti. Hein.
Et moi, si je vous dis Clamart.
Clamart, c'est une ville à côté de Paris où c'est il y avait des petits pois.
C'est vrai. Voilà, exactement. C'est quand on voit sur les cartes de restaurant une appellation Clamart, c'est-à-dire que ce soit un poisson Clamart ou une viande de Clamart, ça veut dire que c'est le produit qui est accompagné de petits pois parce que c'est le nom d'une ancienne variété de petits pois.
Alors là, juste avant l'émission, je vous ai fait les petits pois à la française, qui est un classique qui a accompagné souvent, vous savez, les volailles ou les pigeons plus particulièrement. Des petits pois que j'ai fait revenir dans du beurre avec un oignon nouveau coupé en quatre. Normalement, il est juste gardé entier. Et des feuilles de laitue. Là, il n'y a pas de viande. Si on met des lardons, c'est les petits pois bonne femme. C'est pas la même chose, attention.
C'est pas la même chose. Mais Laurent, j'ai envie de vous dire. Les petits pois que vous avez préparés,
oui,
moi vous me les servez sur un menu de dégustation, vous en faites un plat, pour moi c'est parfait.
Bah tout le monde est content.
Oui, parce que c'est un féculent. Bon. Le petit pois est un féculent et il nous fournit une énergie de bonne qualité, une énergie durable. C'est une légumineuse aussi quand il est sec, donc tous aux petits pois les amis. Hein,
et puis c'est surtout que ça permet justement d'avoir des menus de dégustation avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'onctuosité. C'est pas des plats qui plombent.
Exactement, et c'est ce dont on a besoin
Mangeons
au printemps.
Mangeons des légumes frais, c'est bon pour la santé.
Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Marion Sauveur à nos côtés pour son journal et un dossier spécial cuisine californienne. A tout de suite sur Europe 1, bon samedi.
11h, 12h30, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants sur Europe 1.
Comme chaque samedi, vous êtes invité à la table des bons vivants sur Europe 1. Et une chose est sûre, c'est qu'on voyage ce matin, Laurent.
Des petits pois frais du Gard à la cuisine californienne. Dans un instant, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 pour bien manger et comprendre ce que nous mangeons. Et bien voilà justement l'heure du journal de la cuisine de Marion Sauveur. Bonjour Marion.
Bonjour à tous.
Elle est revenue du Gard avec des petits pois. On en a à gogo ici. Ils sont délicieux. Hein. Bravo.
J'arrête pas d'en manger d'ailleurs.
Cru, hein, comme ça, c'est délicieux.
Voici les titres du journal de la cuisine.
Les saumons de Norvège décimés par une algue toxique qui n'est toujours pas sous contrôle, les prix flambent. Méfiez-vous des aliments ultra transformés, ils feraient prendre du poids, c'est ce que révèle une étude américaine. Et le bio est à l'honneur jusqu'au 16 juin, c'est le printemps bio.
Écoutez bien, plus de 12 000 tonnes de saumon d'élevage de Norvège jetées à la poubelle depuis la mi-mai, Marion.
Les poissons sont victimes d'une algue toxique qui prolifère toujours. Plusieurs millions sont déjà morts depuis 15 jours. Et forcément, le prix du saumon d'élevage a fortement augmenté. En France, 70% du saumon consommé vient de Norvège, ouais, premier pays producteur de ce poisson d'élevage. Cette crise est l'occasion de se tourner vers d'autres espèces. Samedi prochain, à l'occasion de la journée mondiale de l'océan, les chefs du réseau Relais et Châteaux cuisineront des espèces sauvages non menacées ou issues d'aquaculture durable.
Oui, puis on en parlera tout à l'heure avec Alexandre Couillon qui nous a cuisiné un magnifique plat du jour. Alexandre Couillon, un grand chef cuisinier de l'île de Noirmoutier. Les produits ultra transformés pousseraient à manger plus, Marion.
C'est le résultat d'une enquête américaine. Ces aliments industriels sont mangés plus rapidement qu'un produit transformé. Ils ne laissent pas le temps à notre corps de signaler au cerveau qu'il est repu. Ces produits sont aussi généralement très riches en matières grasses, en sucre, mais moins chargé en protéines et en fibres. Il faut donc en manger davantage pour se nourrir. Même si une grande partie des Américains consomment ce genre de produits, il y a un état où la cuisine de produits frais est à l'honneur, c'est la Californie. Nous allons en parler dans quelques instants et en musique donc, Laurent, avec la chef Kathleen Clarity.
Oui, restez avec nous, c'est une femme passionnante et surtout engagée pour une cuisine qui fait du bien. Yves Candebord.
Marion, faut surtout pas en manger.
faut c'est surtout vrai. Pas
non,
manger.
Et bien sûr, on arrête les produits ultra transformés, on le dit assez souvent c'est ici. C'est le printemps bio jusqu'au 15 juin, Marion.
La 20e édition est dans ce cadre-là, en fait, le lait bio ce week-end. Une soixantaine de fermes partout en France ouvrent donc leurs portes pour l'occasion. À Saint-Maurice-sur-Dargoire dans le Rhône, à Rambouillet dans les Yvelines, à Solre-le-Château dans le Nord, à La Croix-Barrée dans l'Aveyron ou encore à Laillé en Ille-et-Vilaine.
Et bien voilà, mangeons bio quand on peut. Merci Marion et à tout à l'heure. Alors loin des plages de surfeurs et des collines d'Hollywood, la Californie est l'Eldorado d'une cuisine respectueuse de l'environnement, des produits sains et bruts. La chef Kathleen Clarity vient de sortir La Nouvelle Cuisine Californienne, un livre qui nous emmène à la rencontre des fermiers bio et des chefs engagés de la Californie du Nord à travers 60 recettes saines et faciles. On est ravis qu'elle soit là. Bonjour Kathleen Clarity.
Bonjour.
Bonjour Kathleen.
Bonjour.
Vous êtes née à Chicago, vous vivez en France depuis 1986, vous êtes maman de 3 enfants, vous donnez des cours de cuisine et vous écrivez des livres de cuisine, donc bien manger pour vous c'est important.
Très très important.
Vous venez du Minnesota mais vous avez eu vite le béguin comme on dit en France, hein, le coup de foudre pour la cuisine californienne. C'est quoi en quelques mots la cuisine californienne si vous deviez la définir ?
Alors en fait, je ne les définirais pas forcément comme une cuisine. C'est-à-dire, on ne cuisine pas beaucoup.
C'est vrai.
Vraiment, on va dire, c'est un assemblage de très bons produits.
C'est ça, c'est le choix de la matière première.
Exactement. C'est vraiment, il y a... En fait, en Californie, il bénéficie d'un climat absolument exceptionnel, avec plus de 1700 km de côte à côte, enfin tout le long de la côte. Donc il y a plusieurs climats dans un même état. Ce qui fait que les produits sont en saison quasiment tout le temps, en fait, selon l'endroit où on se trouve dans l'état, et ils sont absolument fabuleux.
Donc, c'est en fait, un état très grand en plus. Hein.
C'est très très grand, vraiment c'est très grand.
Et puis il y a la mer juste à côté.
Ah bah oui, voilà, on est vraiment sur tout le long de la Pacifique, il y a la montagne, il y a le désert. Enfin voilà, donc toutes sortes de cultures possibles et imaginables, ce qui fait qu'on peut faire des plats très simples et juste délicieux.
Alors vegan, sans gluten, cétogène, de nombreux régimes sont nés en Californie. Alors au-delà des modes et des tendances de ces régimes, il y a une volonté de manger sainement là-bas, grâce à une agriculture, on va dire, locale et durable en fait. C'est ce que vous avez aussi montré dans ce livre.
Oui, tout à fait. En fait, je me suis vraiment focalisée là-dessus. Évidemment, on trouve aussi un peu de culture intensive, un peu de monoculture en Californie. Hein. Mais là, pour l'instant, j'ai...
Les amandes, par exemple.
Oui,
voilà,
oui. Ils sont un peu décrits en ce moment.
Culture intensive de l'amande de Californie, oui.
Ces cités sont absolument délicieuses. Hein. C'est dommage, mais...
Quels sont les produits, justement, qui vous ont fait de l'œil, qui vous ont séduit?
Alors, vous allez rire parce que c'est un produit qui, pour nous semble tout à fait banal, mais c'est de la salade. Je pense que je n'ai jamais goûté autant de feuilles et de variétés de salades différentes. C'est dingue. Il y a une recette, en fait, dans le livre où c'est juste un énorme saladier. Où qu'on aille, en Californie, chez mes amis, dans les restaurants, il y a toujours une énorme salade verte, mais avec un mélange de tout, des herbes, des pétales de fleurs, des différentes variétés amères, un peu plus doux, toujours très croquant. C'est marrant, c'était un produit que je trouvais absolument excellent.
En France, on a aussi des agriculteurs quand même engagés pour une alimentation saine. Hein. C'est quoi là ? C'est le bio qui fait la différence en Californie ?
Il y a beaucoup de bio, ouais. Et il y a vraiment une mouvance vers, de plus en plus vers le bio. Moins en moins de subventions, en fait, pour le côté pesticides, culture intense. Donc ça, c'est tant mieux. Donc on va vers le bio. C'est très, très, très locavore, en fait. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui a toujours existé là-bas. Il y a des chefs très engagés depuis les années 70.
Alice Waters, que vous avez rencontré dans le livre aussi. Hein.
Par exemple, exactement. C'est la papesse de tout ça. C'est une femme extraordinaire. Et c'est vraiment, on va dire, la pionnière de tout ce qui est locavore.
Oui, c'est un peu une tendance qu'on découvre depuis quelques années en France, mais c'est inscrit depuis très longtemps là-bas en Californie. Olivier Pouls.
C'est vrai qu'on a une image de la cuisine américaine, on va dire, un peu catastrophique quand même. Et la Californie, c'est vraiment une poche totalement à part. Ça n'a rien à voir.
C'est le village d'Astérix.
Oui, exactement, avec le reste. Mais est-ce que les autres États américains s'inspirent un peu de ce qui se fait en Californie?
Oui, ils s'en inspirent beaucoup. Alors, ils s'en inspirent et parfois ils se moquent un tout petit peu aussi. Parce qu'on dit de la Californie, c'est que l'état des fruits and nuts. Donc, nuts, c'est des fous, en fait. Et des fruits, c'est, voilà, on va dire, des gens très, très heureux, très gays. Voilà. Mais effectivement, ils sont un peu jaloux parce qu'il y a tous ces produits excellents qui sont disponibles facilement toute l'année.
Alors, justement, les produits, les recettes, ne bougez pas. On continue à passer la cuisine californienne à la casserole avec Kathleen Clarity qui vient de sortir La Nouvelle Cuisine Californienne chez Hachette. C'est juste après un peu de musique. À tout de suite sur Europe 1. Les burritos, les grain bowls, les avocados toast, la cuisine californienne a le vent en poupe. En France, la chef Kathleen Clarity est avec nous, elle nous donne ses meilleures recettes. Kathleen, dans votre livre, il y a une soixantaine de recettes. tomates. Alors c'est vrai que cette cuisine californienne, elle est saine, elle est nature, elle a une dominante végétale. C'est très à la mode aujourd'hui de manger un bowl de légumes ou des pancakes vegan. Expliquez, tiens, à nos auditeurs qui ne savent pas forcément ce que c'est qu'un bowl de légumes. On en voit partout, même maintenant dans les restaurants.
Oui, ils prennent plusieurs noms. On a des bouts de bol, des poke bowls. Ce qui est intéressant avec ces bowls, c'est que c'est très sain. C'est juste un repas complet dans un bowl, avec en général une base de céréales. Ça peut être un riz complet, ça peut être un quinoa, ça peut être de l'orge, ça peut être du sarrasin. J'adore le sarrasin.
Oui, c'est bon ça.
Voilà, c'est super bon. Le sarrasin grillé, c'est délicieux. Buckwheat en anglais. Et on va rajouter des petits légumes, des pickles de légumes. On va ajouter un petit peu de protéines. En général, ça va être une protéine plutôt maigre, du poulet, un peu de poisson, un peu de thon, un peu de saumon. Des petites sauces et parfois même des fruits. Donc en fait, on a vraiment, on va dire, tous les aliments.
Il y a un petit côté sucré-salé parfois à l'intérieur.
Parfois, oui,
tout à fait. C'est un peu un cousin de notre salade complète en France qu'on fait pour partir en pique-nique, par exemple. Mais là-bas, on mange ça régulièrement le midi et le soir. C'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, c'est une cuisine d'assemblage, en fait, la cuisine californienne. C'est pas une cuisine sophistiquée. On reconnaît ce qu'on mange. C'est pour ça que ça rassure peut-être aussi à l'heure de la malbouffe et des produits ultra transformés, en fait.
Oui, je pense. C'est très bien dit parce qu'effectivement, on reconnaît tout dans l'assiette. On va pas du tout partir dans les émulsions, dans les sauces. Bon, j'ai rien contre, j'adore ça. J'ai appris la cuisine française, j'en suis très admirative.
Oui, vous avez fait l'école Ferrandi.
Oui, exactement. Je crois, je ne suis pas la seule.
Non, mais bravo, très belle école. Belle référence.
Exactement. Mais je trouve ça très agréable d'avoir juste, en fait, un petit condiment ou une petite sauce très légère à base d'agrumes. Alors là, c'est l'état des agrumes par excellence. Hein. On a une variété d'agrumes, mais fabuleux. Donc effectivement, ça va être fait. Là, la salade qu'on est en train de déguster, c'est avec du jus de citron vert et un peu de citron jaune.
Alors racontez-nous justement, parce qu'on rentre dans la saison du concombre, et elle est marrante, c'est une salade de votre livre avec le concombre Noah, qui est une variété de concombre qu'on trouve facilement.
Comment
vous faites ça alors?
En fait, c'est la salade de concombre écrasé. Alors pourquoi écrasé? Parce qu'en fait, on va juste laver rapidement le concombre, je le mets dans des sacs congélation ou alors juste dans un feuille de papier sulfurisé, et je le tapote en fait avec un rouleau à pâtisserie. Et ça permet en fait de casser la peau, d'enlever les graines, en fait, plutôt que de les dégorger avec du sel. Donc, ça va enlever l'excédent d'eau et les graines. On les gratte, je les découpe. En fait, c'est même pas, vous avez vu, hein, c'est pas la petite brunoise parfaite. Au contraire, c'est un peu bon,
oui,
comme ça.
Oui, c'est grossier, comme on dit, mais c'est ce qu'on aime. On reconnaît en plus la matière, en fait, de l'aliment. Et puis, vous avez épluché une lanière sur deux. Donc, on garde un petit peu de peau aussi pour l'amertume.
C'est exactement ça, voilà. Pour l'amertume, pour un peu de vitamine aussi.
Des noix de cajou.
Les noix de cajou. En fait, voilà, cette salade, pour moi, elle représente en elle toute seule toute la Californie. Parce qu'on a le côté fraîcheur de concombre, on a des radis donc pour le croquant, et aussi toute cette influence un peu asiatique.
On a un peu de sésame.
Exactement, bravo.
Et du kiwi.
Bravo.
C'est bien.
C'est bon, on peut encore revenir la semaine prochaine, on reconnaît ce qu'on mange.
Non, mais Laurent, ce qui est plaisant, c'est ce qu'on a peut-être oublié un peu dans la gastronomie française, c'est les crudités.
C'est ça,
c'est
vrai.
Mettre en valeur les légumes le plus simplement possible, les accompagner avec de la fraîcheur, alors là, l'acidité, une rondeur avec des kiwis, remettre après, voilà, la petite noix de cajou, il y a aussi un peu de cive ou d'oignon de nouveau. Voilà, c'est un mélange de crudités qui est frais et c'est ce qu'on a envie de manger.
Alors là, on choisit un concombre bio parce que c'est vrai qu'au passage, le concombre capte beaucoup de pesticides et de cochonneries. Donc quand vous pouvez, prenez des concombres bio vraiment. Et alors, à côté de vous, alors là, il est magnifique, un saumon. Alors un saumon labellisé, c'est pas le saumon de Norvège dont on parlait tout à l'heure.
Ils sont morts, de toute façon.
Qui a eu des problèmes. Ah, oui, ils sont morts, ceux-là.
Et tant mieux, tant mieux.
Et celui-là, il est beau. Qu'est-ce que c'est que ce saumon que vous avez apporté, Kathleen Clarity? Racontez-nous.
Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en Californie qui est juste génial, si je peux me permettre. C'est ce qu'on appelle le cedar plank salmon. C'est-à-dire, en fait, c'est un grand... Là-bas, on va le faire avec du saumon d'Alaska, qui est que sauvage, qui est magnifique, qui est très rouge, hein, naturellement. Donc, c'est un saumon, mais fabuleux. Et en fait, on le fait cuire sur le barbecue, mais sur une planche de cèdre. Mmh. En fait, juste attention, la planche de cèdre, il faut bien la tremper dans l'eau longtemps à l'avance.
Parce que sinon, elle part dans le barbecue.
C'est ça.
Elle se consomme rapidement, c'est quand même du bois, quoi. Voilà.
Et elle va donner un petit côté fumé, ça s'achète en magasin spécialisé.
Tout à fait. On les trouve en France aussi. Hein. Et effectivement, donc, juste pour vous dire, je l'ai fait quand même tout à l'heure pour vous.
C'est
Mes
gentil.
Voisins étaient très contents.
Oui, c'est ça, ça embaume. Ça embaume le cèdre et le saumon.
Effectivement, mais en fait, le goût, en fait, de petit côté un peu fumé du boisé, va se transférer sur le saumon et c'est fabuleux. C'est fabuleux. Il y a une petite marinade très légère. Leur marinade, c'est citron. Zeste citron, jus de citron, moutarde et miel.
C'est une recette de votre livre et on la retrouvera sur le site europe1.fr. Alors on est en train de faire le service pendant qu'on vous parle ici. Il est beau, la chair se détache et il n'est pas trop cuit ce saumon, Olivier Pouls.
Ah non, il est parfaitement moelleux. Et puis puisqu'on parle de gastronomie californienne, on peut peut-être toucher un petit mot des vins quand même.
Bien sûr.
Et on peut accompagner ça. Alors c'est vrai qu'on ne les trouve pas très facilement en France, mais il y a des vins magnifiques en Californie. C'est une terre de vignobles extraordinaire et un joli blanc de Californie avec ce saumon, ça me fait voyager immédiatement.
Il y a Coppola qui en fait un dans la Napa Valley, là-bas, qui fait un blanc absolument magnifique, Francis Ford Coppola.
Absolument, absolument, et il s'est vinifié d'ailleurs par un conseiller français.
Alors on mange sain, vous l'entendez, sans produits chimiques, ce matin à la table des bons vivants. Ne bougez pas, on revient avec un ingrédient très présent dans la cuisine californienne, un ingrédient qui fait débat, c'est l'avocat. Vous allez voir qu'on va en parler de l'avocat et on va le cuisiner, mais après l'avoir bien choisi. A tout de suite sur Europe 1.
Après être allé dans le Gard pour y goûter les petits pois, Laurent, vous emmenez tout le monde en Californie pour apprendre plein de recettes grâce à votre invité.
Absolument, Justine. Ce samedi, on se met à l'heure de la cuisine californienne, nature, saine et complète. Elle compte de plus en plus d'adeptes. On en parle avec Kathleen Clarity, qui vient de sortir la nouvelle cuisine californienne chez Hachette. Un livre avec 60 recettes saines, faciles et rapides à faire pour le week-end. C'est vraiment le compagnon idéal. On déguste votre saumon que vous avez cuisiné sur une planche de cèdre, comme ça, au barbecue, avec cette petite rondeur, comme on disait, du miel. C'est vrai que c'est peut-être la particularité de la cuisine californienne. C'est cette petite touche sucrée qu'on retrouve un petit peu partout. Yves Condebord.
Oui, complètement. Alors, pour y avoir passé quelques semaines en Californie, j'ai été émerveillé par la qualité des produits, par la façon de les assembler. Mais il y a toujours quand même une petite touche de rondeur qui, pour nous, gastronomes français, des fois, peut un peu nous plomber sur une répétition de repas.
Eh bien, reprenez justement de cette salade de concombre, elle n'est pas trop sucrée.
Il y a un petit peu de kiwi aussi.
Oui, il y a un petit peu de kiwi, mais voilà, c'est du végétal.
Il y a toujours cette forme de douceur, voilà.
Kathleen Clarity, c'est la semaine du développement durable. La cuisine californienne se veut respectueuse de l'environnement. Et il y a un produit qui n'a pas la même valeur environnementale selon qu'on le mange en Californie ou en France. C'est l'avocat. Ça fait débat parce que l'avocat du Mexique est vraiment un gros problème pour l'écologie. Les cartels mexicains, même maintenant, s'y intéressent. Ça devient un business comme le marché de la drogue, c'est vous dire. Mais en Californie, vous avez un avocat qui n'a rien à voir, mais on n'arrive pas à le trouver chez nous. Racontez-nous.
C'est vrai que c'est un avocat absolument fabuleux. J'ai rencontré un couple de producteurs, dans le centre, ce qu'on appelle le Central Valley, vraiment dans le centre de la Californie, qui font un avocat bio, mais à tomber, mais alors à tomber. Mais on ne pourra jamais le goûter en France.
Ils ne l'exportent pas.
Ils le gardent pour eux.
Ils le gardent pour eux. Non, mais c'est vrai qu'il y a une très grande mode, on le voit sur Instagram, de l'avocado toast, qui est cet avocat écrasé qu'on tartine sur du pain grillé ou sur un pain de mie de céréales complète, par exemple. C'est une folie totale, ça.
C'est une folie totale, mais ça vient d'une chose très précise. C'est-à-dire, ça vient un peu de ces différents types de modes de régime où on mange un peu moins de graisse animale. Donc, on ne va pas tartiner du beurre, on va chercher du bon gras, donc des oméga-3 présents dans l'avocat. Donc, c'est bien de ça, en fait. Et effectivement, boum, espèce de mode pas possible. Il y a même, je rigole avec ça, mais il y a même un emoji, vous savez, sur nos iPhones, là.
C'est vrai, avec l'avocat. Oui, absolument, oui.
Faut dire que voilà.
Yves Condebord qui est très présent sur Instagram, mais beaucoup d'avocats.
Hein? Non, mais l'avocat, c'est vrai que c'est un produit qu'on aime. Voilà, parce que là, t'as raison, Catherine, il y a ce côté gras, quoi. Ce côté gras, ce côté végétal,
c'est rassurant,
goût,
c'est doux,
c'est bon. Mais c'est vrai que ça nous pose un vrai problème aujourd'hui en France, parce que quand on voit les avocats qui nous arrivent, même quand ça arrive de Californie, est-ce que ça a un sens? Comme tu dis, les magnifiques avocats que vous avez, gardez-vous-les.
Oui,
ils sont pour vous. Quand on va chez vous, on en profite. Est-ce que ça a un sens de les amener chez nous? Moi, je ne crois pas.
Mais pour le coup, on peut trouver des avocats cultivés correctement en Espagne, par exemple, et même en Corse, on fait de l'avocat. Alors, c'est une petite production, mais on en fait.
Voilà, il y a une petite production en Corse qui est très intéressante. Après, j'ai envie de vous dire, l'Espagne me fait peur. Voilà, ils sont capables de tout produire.
Oui, mais en Andalousie, moi j'en ai vu qui étaient cultivés comme il faut, sans traitement et sans cochonnerie. On en trouve quand même.
Oui, mais après, il faut savoir, Laurent, quand même, que pour cultiver de l'avocat, la quantité d'eau.
Ah, c'est ça. C'est comme le maïs. Écologiquement, c'est compliqué.
Écologiquement, c'est très compliqué.
Alors, comme il faut toujours terminer par une note sucrée, Kathleen Clarity, tiens, une idée rapide de dessert californien typique que vous pourriez nous proposer, qu'on retrouve dans votre livre.
Alors là, encore une fois, on va prendre le produit brut tellement délicieuse. Et comme on est en train de parler du barbecue, je prends des fruits juste ultra frais et je les fais juste griller légèrement sur le barbecue. À côté, je vais faire une petite sauce, pardon Yves, mais peut-être un peu de sirop d'érable ou éventuellement un peu de miel.
Sucre, non, c'est un dessert, tu vois.
Mais c'est bien,
c'est
ça.
C'est un dessert. Et juste, en fait, on coupe une magnifique pêche en deux. On le fait aller-retour sur le barbecue, ça va ressortir sous les sucres, tous les sucres naturels.
C'est en attendant délicieux. La saison de la pêche, on peut le faire avec des fraises, de la rhubarbe.
Tout même. À fait.
Alors, la cerise, c'est déjà très sucré, ça rajouterait peut-être beaucoup. J'ai vu des premiers abricots qui débarquent avec
ça
l'abricot, ça peut marcher, ça.
L'abricot romarin, c'est délicieux, ça. Ouais. Ça va très bien ensemble.
Eh bien, merci beaucoup, Kathleen Clarity, d'être venue à la table des bons vivants. Je rappelle votre livre La nouvelle cuisine californienne, paru chez Hachette, une cuisine saine, naturelle et complète. Merci Kathleen Clarity.
Merci à vous.
Europe 1, 11h, 12h30, Laurent Mariotte.
Bientôt midi moins le quart, c'est l'heure de retrouver l'ami du déjeuner, le camarade Jean-Luc Petit-Renaud. Et ça y est, il est venu le temps des cerises, le maire, le moqueur, le gai rossignol et le Jean-Luc Petit-Renaud flatteur. Bonjour, bonjour l'ami Jean-Luc.
Eh bien, salut mes bons gourmands. Alors, moi je vous remercie d'ailleurs pour cette place dans l'émission. Être finalement le considéré comme la cerise sur le gâteau, ça me fait plaisir. Parce que c'est le fruit qu'on attend le plus. C'est marrant parce que la fraise pointe son nez avant, mais la fraise, elle a le côté rampant, donc on l'oublie vite. Tandis que le cerisier, il est planté au milieu du jardin et on le suit depuis des mois. On a vu arriver ses fleurs, on a vu bourgeonner les feuilles, on a vu arriver ces petites billes vertes qui vont être nos futures cerises. Et puis on se dit, allez, peut-être qu'on sera prêt pour la cueillette samedi prochain, ça ira bien. Et puis basta, vous êtes en train de sortir l'escabeau et là arrive le maire le moqueur, le beau prince au bec jaune qui arrive, saute dans le cerisier et bouffe les cerises. Bien avant vous. Alors je lui en veux toujours. On essaie de lui faire peur en tapant dans les mains, mais ça marche pas à tous les coups. La cerise, c'est le produit du saltimbanque, c'est le produit du clown, parce qu'on a envie de cueillir et de se mettre ces jolies cerises sur les oreilles. D'ailleurs, qu'est-ce que les pastourelles sont belles sous les yeux des pastoureaux lorsqu'elles arrivent déguisées de cerises.
Mais quel poète ce Jean-Luc Petit-Renaud, un beau clafoutis de cerises. On en parlera la semaine prochaine des cerises, on ira les récolter dans le Vaucluse. Ça
mais
fait envie, Olivier Pouls.
Le clafoutis, c'est à la cerise, c'est avec des cerises dont on a gardé les noyaux, bien sûr, parce que ça donne du goût à la cuisson. Et puis après, quand on est dans le jardin, ça permet de faire des concours de crachat de noyaux de cerises. Et j'étais assez fort.
Eh bien, ne bougez pas dans un instant. Un homme de lettres et d'idées se à notre table. Jacques Attali est notre invité. Il vient de sortir un livre passionnant sur l'histoire de l'alimentation. A tout de suite sur Europe 1. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la table des bons vivants. Nous allons profiter de la semaine du développement durable pour vous donner des astuces anti-gaspi avec Yves Candebord dans un instant. Mais juste avant, on va faire un petit tour à Budapest, capitale de la Hongrie. Suivez le guide, c'est Georges Ezra. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Thank you.
Un succès mondial pour cette balade acoustique, vu plus de 158 millions de fois, c'est énorme. C'était Georges Ezra avec son tube Budapest.
Europe 1.
Jusqu'à midi et demi, vous êtes avec Laurent Mariotte et toute l'équipe des Bons Vivants sur Europe 1. Une équipe qui vous attend d'ailleurs au 39-21, 50 centimes la minute, pour répondre à toutes vos questions.
Merci d'être à l'écoute des Bons Vivants. Il est bientôt midi, l'heure d'accueillir notre invité, polytechnicien, énarque, ancien professeur, conseiller politique, musicien, chef d'orchestre. Il a un bel appétit, je peux vous dire, et une soif de culture et de connaissances jamais assouvies. Il aime se projeter dans le futur pour essayer d'anticiper les grands changements de notre société. Membre fondateur d'Action contre la faim, il vient de publier « Histoire dans l'alimentation chez Fayard », un livre qui retrace le parcours alimentaire de l'Homo sapiens à l'Homo smartphone. C'est Jacques Attali, notre invité. Bonjour Jacques Attali.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir.
Je suis ravi d'être là.
Parce que votre livre est passionnant. « Histoire au pluriel de l'alimentation », c'est une bible parce que ça part vraiment du paléolithique, du néolithique, jusqu'à aujourd'hui. Et vous vous projetez même dans les 30 prochaines années, comme vous aimez le faire, pour nous parler de nos habitudes et de nos comportements alimentaires. Le sous-titre, de quoi manger est-il le nom ? Ben, je vous pose la question, tiens. De quoi manger est-il le nom ?
Manger est le nom de la condition humaine, de la société, de la façon dont nous aimons ou partager, vivre ensemble, parler, converser. Je crois que si on avait à dire une chose, manger est le nom de la conversation.
C'est ce que vous dites d'ailleurs au début du livre, que le repas c'est une des pierres angulaires de notre existence. C'est pendant les repas que s'est déterminé l'essentiel de l'organisation des empires, des royaumes, des nations et des familles aussi. Le temps passé à table.
Le temps passé à table depuis toujours a été le temps du partage, de l'apprentissage, de la transmission, du règlement des conflits. C'est un temps neutre, puisque c'est un temps où on ne consomme pas autre chose que la nourriture, donc on n'achète pas. C'est un temps neutre aussi parce qu'on ne travaille pas.
Mais vous le dites, et vous l'avez dit dans l'excellente émission de notre camarade Frédéric Taddeï sur Europe 1, que le repas, c'est hallucinant cette phrase, est l'ennemi du capitalisme en fait.
Oui, le repas, j'ai mis du temps à comprendre ça. Le repas est l'ennemi du capitalisme, parce qu'en effet, pendant le repas, on ne consomme pas d'autre chose, on consomme peu de choses et pas une part très importante de son revenu, et puis on ne travaille pas. Donc le capitalisme n'aime pas ça. Donc dès que le capitalisme commence vraiment à prendre le pouvoir, c'est-à-dire vers la fin du 19e siècle, il fait tout pour réduire le repas. D'abord, il rend la nourriture fade. Aux États-Unis, on invente cette nourriture fade qui commence par le cornflakes et qui continue par le ketchup. Puis ensuite, la nourriture industrielle. Et en même temps, on réduit, et forcément puisque le repas n'est plus plaisant, on en réduit la durée et elle s'effondre de façon à laisser de la place pour faire autre chose, pour consommer autre chose et pour travailler.
Jacques Attali, quel est votre goût de la semaine ?
Mon goût de la semaine, c'est le même que tout le temps, c'est le chocolat.
Ça ! Combien de carrés par jour ?
Trop, peut-être.
Noir au lait ?
Que noir.
Que noir.
Noir, même 100%.
Jacques Attali, la semaine mondiale du développement durable vient de commencer. Vous en parlez dans votre livre, hein, justement, de l'importance de nous reconnecter avec notre environnement, notre écologie. Vous avez changé vos habitudes alimentaires ces dernières années, justement, par rapport à ça ?
Oui, assez profondément. J'ai développé dans ce livre, en effet, à la fin, le concept de la gastronomie positive, c'est-à-dire la gastronomie qui soit à la fois bonne pour soi et bonne pour le monde. Moi, j'ai changé assez profondément. Je suis de plus en plus végétarien, c'est-à-dire que je mange pratiquement plus de viande rouge. De la viande blanche quand elle est de qualité, du poisson, oui. Si possible, maximum de choses qui soient produites pas trop loin de chez moi. Évidemment, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas manger produites pas trop loin de chez soi, mais si autant que possible, ça.
Mangeons bien, mangeons sainement. Alors, c'est la semaine mondiale du développement durable. Elle vient de démarrer. Alors, une bonne occasion avec notre camarade Yves Candebord pour vous aider à ne pas jeter et à ne pas gaspiller, Yves. Et vous allez nous faire cuisiner les épluchures, c'est ça ?
Oui, Laurent, le gaspillage, c'est vrai que le gaspillage alimentaire est énorme aujourd'hui dans la société. Et on a une phrase des cuisiniers qu'on nous dit quand on est des jeunes apprentis. Tu seras le meilleur cuisinier du monde si tu sais utiliser les restes. Quand on reçoit une carotte, Laurent, l'idéal, c'est acheter une carotte bio. Donc, une fois qu'on l'a épluchée, on va utiliser, bien sûr, je dirais, le corps de la carotte pour faire une préparation. Et les épluchures, on les conserve.
Et qu'est-ce qu'on en fait, alors ?
Alors, il y a plusieurs solutions. Voilà. Si, par exemple, le lendemain, on a prévu de faire un pot-au-feu, eh bien, au lieu de mettre des carottes entières dans le pot-au-feu, on pourra mettre des épluchures qui vont l'aromatiser de la même façon. Sinon, on les conserve, on les prend. On les passe légèrement à l'eau pendant 2-3 minutes, une eau légèrement frémissante et salée. On les égoutte, on va les déposer sur une plaque, les mettre au four pour les faire sécher. Vous les allez laisser dans un four à 150 degrés pendant 45 minutes, 1 heure. Une fois qu'elles sont séchées, on va les laisser refroidir. Après, Laurent, vous les mixez, vous les hachez au couteau.
Ouais.
Vous avez comme une chapelure.
D'accord.
Vous rajoutez un peu de mie de pain dedans, de la chapelure classique, et vous pouvez paner un poisson, paner une viande, ça va vous
ou
amener...
Ou mettre sur une salade, tout simplement,
tout simplement
pour apporter
déposer,
un peu de croustillant.
Déposer sur une salade pour apporter des croustillants, ou alors encore si vous faites un carpaccio de viande, quand vous avez un carpaccio de viande ou de poisson, voilà, saupoudré de cette poudre de carotte, et vous avez déjà une texture qui est agréable, c'est un croquant, plus un visuel qui est agréable.
C'est la fin de la saison des petits pois. Vous en avez devant vous, Jacques Attali. On vous a fait des petits pois à la française. C'est très simple, avec un petit peu de beurre, des oignons et puis de la laitue. On peut utiliser les cosses de petits pois aussi, Yves Candebord.
Quand on a la chance d'avoir des petits pois de cette qualité-là, là, qui arrivent, je pense qu'il y a Jacques Mercier à côté de Poitiers qui nous fait des petits pois.
C'est un bonbon.
Exceptionnel,
ça.
C'est des bonbons. Alors les graines sont des bonbons, mais les cosses, ne les jetez pas. Si vous avez la chance d'avoir une centrifugeuse, on les passe à la centrifugeuse, vous avez un jus d'une limpidité, d'une couleur fluorescente qui est magnifique, ou alors vous le mettez carrément dans un mixeur avec un petit verre d'eau, vous mixez, vous filtrez, et vous avez un jus de petits pois. Un petit shot de petits pois avec une petite pointe de piment d'Espelette.
Ah, c'est bien,
on va y couper dedans deux, trois petits morceaux de feta, ça vous fait un amuse-bouche avant de passer à table, ou alors à 4 heures, une petite boisson glacé, qui est très agréable.
Et ce n'est pas de grignotage. Vous validez, Jacques Attali ?
Oui, d'autant plus que c'est une recommandation très générale. Peu de gens savent qu'un tiers de ce que l'humanité produit chaque année pour se nourrir est gaspillé, jeté. Donc tout ce qui permet de...
On jette énormément.
Voilà. D'autre part, dans l'histoire humaine la plus ancienne, la réutilisation des restes est au cœur de la cuisine.
Revenons au beau sens de nos anciens. Allez, bientôt midi, on se retrouve juste après les titres du journal de la mi-journée de Fabienne Lemoyle pour déguster un plat du jour signé Alexandre Couillon, 100% île de Noirmoutier, vous allez entendre. A tout de suite sur Europe 1.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Allons-y, allons-y, on profite.
11h, midi 30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Soyez les bienvenus si vous venez d'arriver à la table des bons vivants, des petits pois à la française à la cuisine californienne en passant par la cuisine des épluchures. La table des bons vivants fait le tour de la cuisine sans exception. Nous avons un invité passionnant encore une fois aujourd'hui, c'est Jacques Attali qui vient de sortir Histoire au pluriel de l'alimentation chez Fayard. Alors vous parlez de tout, vous parlez effectivement de notre agriculture aussi qui est au centre de votre livre. Les élections européennes viennent d'avoir lieu, Jacques Attali, vous l'Européen convaincu. Que pensez-vous de notre agriculture française et de cette agriculture européenne ? Il faut la repenser ?
Oui, totalement. D'abord, la France est un cas très particulier dans la gastronomie mondiale. D'ailleurs, le repas français a été mis dans le patrimoine de l'UNESCO. Donc
exactement.
C'est tout à fait essentiel. Il faut le conserver. Nous sommes des nations qui restent d'ailleurs le plus longtemps à table encore.
On est les derniers à rester longtemps à table.
Les derniers. Donc, notre agriculture qui est encore magnifique, et nous avons des agriculteurs extraordinaires qui ont un amour formidable des plantes et des animaux. Maintenant, il faut les aider à évoluer, à revenir vers une agriculture la plus naturelle possible, en sachant qu'on peut mêler la production de masse à bas coût avec une agriculture de qualité. Il faut simplement savoir que nous devrions tous, quel que soit notre niveau de vie, consacrer une part légèrement plus grande de notre pouvoir d'achat.
Vous le dites, 10 centimes de plus.
Voilà. Si on peut consacrer un peu plus, d'abord ça permettrait aux paysans de vivre mieux, et ensuite nous-mêmes on consommerait mieux, et peut-être qu'on n'utiliserait pas de l'argent, même pour les gens les plus modestes, à des choses moins utiles que bien manger, qui est à la fois, comme vous le dites dans cette émission tous les samedis, un grand plaisir, un art qui permet à toute une partie de la population de vivre et à maintenir nos territoires. Donc il faut réformer la politique agricole commune, certainement donner beaucoup moins d'argent aux grands céréaliers ou aux productions industrielles, beaucoup plus d'argent aux petits producteurs.
Et vous dites quoi en fait ? Il faut revenir à une agriculture paysanne plus locale ?
Oui, à l'échelle mondiale. On sait maintenant qu'on pourrait nourrir 10 milliards d'habitants sur la planète si les paysans avaient des droits de propriété, une formation de haut niveau... Et s'ils avaient vraiment le contrôle de ce qu'ils pouvaient produire, et si on posait des contraintes très strictes à l'industrie agroalimentaire, et faire en sorte qu'on ne soit plus tenté de consommer ces produits industriels épouvantables, et donc de revenir progressivement vers ce que les paysans et les merveilleux cuisiniers nous offrent.
Eh bien, on vous en emmène découvrir justement un chef militant engagé, c'est Alexandre Couillon sur l'île de Noirmoutier. Il fait partie de cette jeune génération de chefs cuisiniers qui cuisinent en puisant essentiellement dans les ressources locales. En deux mots, une cuisine marine et végétale, Marion Sauveur, vous qui êtes allé le voir.
Complètement. Et il est très attaché à la saisonnalité, aux produits de son terroir. Et on va cuire ensemble un merlan dans un bouillon de pommes de terre de Noirmoutier, bien entendu. Et vous allez découvrir son astuce de chef pour toujours bien cuire le poisson. Alors on choisit pour cette recette des pommes de terre primeur, c'est important, avec la peau qui s'enlève toute seule, et bio, puisqu'on va conserver l'eau de cuisson des pommes de terre. Ça va être la base de notre bouillon. Alors on enlève les pommes de terre de cette eau de cuisson et on remet à chauffer ce bouillon. Écoutez.
Alexandre Couillon.
Puis là, on a notre bouillon qui a servi pour les pommes de terre. On voit qu'il a pris une légère couleur blonde, un petit peu ambrée.
On reste sur le feu. Hein.
Voilà, on reste sur le feu. On descend un petit peu.
Faut pas que ça boue.
On vient déposer à la surface deux morceaux d'algues kombu. Ensuite, on va mettre une belle cuillère à soupe de crevettes grises, les hydrater. On fait infuser une bonne dizaine de minutes. On vient mettre le soja qui va venir un peu l'assaisonner. Alors là, on va le laisser comme ça, tranquillement, 2-3 minutes. Notre filet de merlan, on va simplement le tailler un petit peu en biseau.
On fait des petites lanières.
Un peu moins d'un centimètre. On prend nos morceaux de merlan.
On pose au fond
voilà.
du bol.
On vient déposer nos 3 petites pommes de terre. Nos petits morceaux de cébette ou de cive ou d'échalote, comme vous avez sous la main, pour apporter un peu de vif.
Ça, c'est le gingembre hein, qu'on pose sur le poisson.
Voilà.
Hein.
Là, on a un tout petit cube de citron qu'on va venir poser. Là, on a notre crisse marine, qui est notre fenouil sauvage qu'on ramasse sur les dunes.
On peut mettre du fenouil, tout simplement.
Voilà, tout à fait. Hein. Puis là, on va prendre notre fameux bouillon. Et là, on va venir verser sur le poisson. On vient bien, bien le recouvrir.
Il faut que le poisson soit immergé. Hein.
Voilà. Le poisson commence à blanchir. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un bouillon très, très chaud. Voilà, on voit qu'il n'est pas trop cuit, il se tient bien en plus. Voilà.
Il est nacré. Hein.
Non, c'est bon.
On a ce poisson qui fond dans la bouche.
Je pense que c'est plus facile de cuisiner le poisson comme ça parce qu'on a simplement une épaisseur de poisson qui est à peu près calibrée parce qu'il ne faut pas que ça soit trop épais. On a un bouillon bien chaud. On a un merlan qui est juste frais. On verse le bouillon bien chaud dessus. Et le tour est joué, voilà.
Alexandre Couillon sur l'île de Noirmoutier, allez-y de notre part. Il y a également un bistrot juste à côté de son restaurant gastronomique où vous avez de beaux menus avec de jolis rapports qualité-prix. C'est l'avenir, là on est dans la cuisine rurale et marine à la fois en fait, Jacques Attali.
Oui, sans aucun doute. Et encore une fois, je suis convaincu que les chefs peuvent nous proposer des repas bon marché, sinon très bon marché de qualité, et qu'on n'a pas d'excuse de manger des horreurs industrielles. Aucune excuse.
Qu'est-ce qu'on boit avec ce poisson, Olivier Pouls?
Je sens les embruns jusqu'ici.
L'iode,
évidemment. Donc, on va choisir un vin blanc. On va choisir un vin blanc assez sec, assez tendu, comme un Sauvignon de la Loire, de Sancerre, par exemple, qui peut développer ses côtés un petit peu marins aussi et qui va venir trancher sur le poisson.
Ah, tranchons sur le poisson, mais évidemment. Ne bougez pas, on revient tout de suite avec Jacques Attali pour répondre aux questions que vous avez posées, vous, les auditeurs, sur le répondeur des Bons Vivants, au 39-21. À tout de suite et bon samedi midi sur Europe 1.
De 11h à midi et demi, le samedi, Laurent Mariotte nous réunit tous à la table des bons vivants sur Europe 1.
Merci d'être avec nous à la table des bons vivants. Nous sommes en bonne compagnie ce samedi avec Jacques Attali, bon penseur et bon vivant. Vous aimez passer du temps à table, Jacques Attali?
J'aime beaucoup ça, même si je ne le fais pas toujours, mais j'adore ça.
C'est vrai que vous faites 1000 choses à la fois.
D'abord parce que j'adore découvrir des nouveaux restaurants, j'adore découvrir de nouvelles recettes. Même si moi-même, je ne cuisine pas. J'ai essayé un peu, mais je suis trop maladroit pour ça.
C'est vrai, vraiment, il n'y a pas un truc que vous réussissez? Même pas des œufs au plat, quand
oui,
même.
Bien sûr, pas, voilà. Bien sûr. Non, mais il fut un temps où je m'étais essayé à la cuisine et j'avais fait quelques plats. Mais je dois dire que je n'ai pas la patience nécessaire. J'admire cette patience.
Nous sommes dans le studio Coluche, ici à Europe 1, Jacques Attali. C'était un de vos grands amis, Coluche.
J'ai eu le privilège d'être très proche de Michel, très très proche de lui avant même qu'il arrive à Europe. C'était en effet un ami très proche, et donc je suis très touché d'être dans le nouveau studio qui porte son nom.
Et je voudrais qu'on écoute justement le moment où il a lancé les Restos du Cœur. C'était dans l'ancien studio Coluche, rue François 1er.
Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Alors tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui ont des grosses cantines, qui ont des restes, à ce moment-là, nous, on pourrait peut-être les récupérer, voir ce qu'on peut faire avec les agriculteurs qui ont de l'excédent ou avec les sponsors. Et puis, on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà. Je lance l'idée comme ça. S'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent.
Bonne idée, ma poule. Hein, c'était une bonne idée.
C'était une idée merveilleuse dont il était venu me parler juste avant. Je l'ai aidé comme j'ai pu, en particulier pour lui faire avoir un compte bancaire, créer les conditions pour que ça fonctionne. Et puis ça s'est développé, c'était un être d'exception. Quelques jours avant sa mort, je l'avais encore vu, puisqu'on était très proches, et on travaillait sur un autre projet qui était des Restos du Cœur planétaires, qui puissent être donnés à tous les pauvres du monde. L'idée était impensable, irréalisable, mais je suis sûr que lui l'aurait réussi.
Mais c'est ce que vous faites vous aussi en tant que membre fondateur d'Action contre la faim?
C'est ce qu'on fait avec Action contre la faim, c'est ce qu'on fait avec la nouvelle fondation dont je m'occupe depuis 20 ans, Positive Planète, où on aide les gens à avoir les moyens de gagner leur vie et ne pas dépendre de la charité. Donc, on va au-delà des Restos du Cœur qui nourrissent ceux qui n'ont pas les moyens pour aider les gens à ne plus avoir besoin d'aller au Restos du Cœur.
Alors ici, vous le savez, on aime cuisiner, on aime vous aider à cuisiner dans votre cuisine du quotidien, votre cuisine de week-end. On va répondre aux questions des auditeurs laissées sur le répondeur du 3921. Premier appel.
Bonjour la table des bons vivants, c'est Julien de Jacou. J'aurais une petite question en ce qui concerne les fèves, comme c'est encore la saison. J'aimerais savoir si c'est vraiment nécessaire de retirer la petite peau qui les entoure une fois qu'on les a écossées, ou si on peut la laisser pour gagner du temps. Merci.
Eh bien, on vous répond immédiatement, Julien, mais la réponse, Yves Condebord, est...
Il y a deux cas de figure. Ah parce que si on a la chance d'avoir, en début de saison, les petites fèves...
Ah oui, les fèvettes.
Les petites fèvettes, là, qui sont merveilleuses, c'est pas la peine, une fois que vous les avez sorties de la cosse, c'est pas la peine de les réépêcher.
Quand elles sont petites, oui.
Parce que la peau, c'est principalement une membrane qui est très souple et très agréable, donc faut pas la toucher. C'est un peu comme les petits pois, quand on a des tout petits pois, on les laisse crus. Après, quand on est sur des fèves qui sont plus grosses, c'est vrai que là, il faut enlever la peau parce que la peau amène
De l'amertume
et qui n'est pas très plaisante au palais, ça amène une membrane qui est désagréable au palais. Donc par contre, c'est très facile à faire. C'est une casserole d'eau bouillante. Voilà, on les plonge dedans, on compte 20 secondes, on les retire, on les glace quand même pour arrêter la cuisson parce qu'il n'y a pas d'intérêt de les cuire. Et après, en les pressant entre deux doigts, entre le pouce et l'index, on arrive à enlever la membrane très facilement.
Et on les assaisonne, une belle huile d'olive par exemple, voilà. Un chèvre frais,
une huile d'olive et un peu de sarriette.
Ah, c'est voilà. Bien ça, c'est le bonheur.
C'est simple et c'est juste du bonheur.
Et la fève est l'avenir de l'homme, vous le dites dans votre livre, Jacques Attali, parce que c'est une légumineuse.
Il y a deux tendances. Il y a la tendance naturelle de l'évolution de la nourriture qui sera catastrophique, puisqu'on va se nourrir de plus en plus de produits artificiels, d'insectes sans doute. Il y a 2 milliards de personnes qui mangent des insectes déjà aujourd'hui à travers le monde.
Ça. On va y avoir droit tous, vous pensez à ça?
Je pense qu'on va l'éviter parce que c'est... D'abord parce que les plus pauvres dans les pays pauvres ne veulent plus manger d'insectes parce que l'insecte est un signe de pauvreté. Ensuite parce que les insectes sont tellement importants à l'équilibre écologique de la planète que manger des insectes, c'est détruire la biodiversité d'une façon épouvantable.
Donc, fameuse biodiversité qui est en train de disparaître.
Mais indépendamment de la biodiversité, c'est la biodiversité sur la table. Même si les plantes existent, on ne les utilise plus. Moi, ce que j'admire beaucoup chez les cuisiniers, c'est quand ils ont l'intelligence, et je pourrais citer des chefs magnifiques qui font ça de façon systématique, je pense évidemment à Pierre Gagnère ou à Jean-François Piège, d'aller chercher des plantes qu'on n'utilise plus pour leur redonner vie et refaire tenter. Mais je pourrais citer 50 autres noms de chef.
Bien sûr, et puis toute cette nouvelle génération effectivement est très préoccupée par ça, par l'avenir de la planète,
faire
et par
revenir,
cette dimension écologique.
Faire revenir les plantes.
Une autre question au 3921.
Bonjour Laurent, bonjour l'équipe, Betty de la Dordogne. J'ai une petite question sur l'ail. Je cultive de l'ail dans mon jardin, mais récemment j'ai vu sur les marchés de l'ail fumé. Bon, j'en ai acheté et je ne vois pas trop la différence. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que l'on en fait et si c'est vraiment utile de l'acheter ? Merci.
Ah bah c'est qu'il a été mal fumé si vous ne voyez pas la différence, parce que dites donc, c'est costaud hein, l'ail fumé, c'est une spécialité du Nord. Il y a l'ail fumé d'Arleux d'ailleurs dans le Nord, hein,
oui,
Yves Condebord.
Oui, qui est une IGP assez fantastique.
Assez sublime ça, oui.
Au départ, l'ail fumé, bon, c'est pour la conservation. Ça a été fait pour ça. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas reconnu l'ail fumé, c'est qu'il a été mal fumé. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est très marquant. D'ailleurs, si vous le laissez dans une pièce, vous revenez deux heures après, vous avez l'impression qu'il y avait eu un feu de cheminée.
Ça embaume. Qu'est-ce qu'on en fait ?
Après, on peut l'utiliser, je dirais, de la même façon qu'on peut utiliser l'ail classique. Mais même, on peut aller plus loin. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'il est fumé, il a peut-être un peu moins de puissance. Il est peut-être, j'ai envie de dire, à peine un peu moins agressif. Donc ça peut être un condiment plus léger. Et accompagner un ail fumé avec un hareng, accompagner un ail fumé avec une viande blanche et aussi avec un légume, prendre des asperges, écraser l'ail fumé, l'intégrer dans une petite mayonnaise, mettre ça sur des asperges blanches, entre l'amertume de l'asperge blanche, le côté très crémeux de la mayonnaise et le petit côté fumé de l'ail, je peux vous assurer que c'est des petits mariages qui sont sympas à faire, très faciles et qui sont très agréables.
Et un mariage de saison comme on aime. Eh bien, ne bougez pas, nous allons cuisiner notre invité dans un instant, Jacques Attali, qui est venu avec son beau livre « Histoire de l'alimentation », un livre passionnant paru chez Fayard. A tout de suite sur Europe 1 et bon samedi midi. Merci d'être là, les amis.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bon, pour la Coupe du Monde féminine, on va faire les choses en grand.
Ouais.
Hein, des places aux premières loges dans le salon pour tous les copains.
Et des ballons partout.
Ouais, et un orchestre de vuvuzelas.
Oui, et on repeint tous les murs en bleu, blanc, rouge.
Oui, non, c'est peut-être un peu trop là.
Ah bon ?
Pour célébrer la Coupe du Monde féminine de la FIFA France 2019 et supporter les Bleus, profitez de notre crédit conso. Crédit Agricole, toute une banque pour vous. Offre réservée aux particuliers, voire disponibilité et conditions de l'offre en agence, sous réserve d'acceptation par votre caisse régionale participante prêteur. Vous disposez d'un délai légal de rétractation.
Paris, un soir en semaine.
Excusez-moi ?
Oui ?
Vous ne partez pas, j'espère ?
Ah non, désolé, je viens juste de me garer.
Ah parfait, je vais tourner encore un peu. Merci.
Prolongez le plaisir de conduire BMW 100% électrique. Jusqu'au 30 juin, la nouvelle BMW i3 est à partir de 290€ par mois. LLD 36 mois, 30 000 km pour une BMW i3 édition 360 atelier avec majoration du premier loyer de 1 010€. Détails sur bmw.fr.
Ce week-end, la tension va monter d'un cran. Leur résistance sera mise à rude épreuve et il ne faudra pas manquer de puissance face aux charges adverses. Alors, pour faire des étincelles, chaque transformation sera déterminante.
Vivez des barrages électriques avec Loup Rugby Montpellier, aujourd'hui à 17h, en direct et en exclusivité sur Canal+. Appelez vite le 3910. Service payant 25 centimes la minute plus prix appel.
Merci d'écouter la table des bons vivants. Le passionnant Jacques Attali est notre invité. La semaine prochaine, nous recevrons Marc Lavoine. Et comme on l'aime beaucoup, bien on écoute un extrait justement de son dernier album, Seul, définitivement. C'est un joli extrait de son dernier album et on se retrouve juste après.
Europe 1. S'il y a bien quelque chose qui traverse les années, c'est la cuisine bien sûr, mais elle évolue. Et c'est justement de ça qu'est venu nous parler l'invité de Laurent Mariotte.
Merci de nous retrouver à la table des bons vivants. On parle alimentation à travers les âges grâce au dernier livre de Jacques Attali.
Non, si vous permettez, on va dire le plus récent.
Le plus récent.
Dernier, ça voudrait dire que j'en écrirai plus après et ça, j'aime pas trop.
Donc l'avenir, on se projette. Hein,
voilà, et toujours. Vous avez dit tout à l'heure le dernier disque de Marc Lavoine, donc j'espère pour lui que c'est le plus récent.
Absolument, vous avez raison, le plus récent, soyons précis. Alors on va parler vin maintenant, c'est important pour vous le vin, vous buvez un petit peu de vin, Jacques Attali ?
Je bois un peu, je fais très attention parce que je suis quelqu'un qui supporte mal l'alcool, donc j'adore le vin rouge surtout, mais je ne peux pas en boire plus d'un verre par jour. Mais donc du très bon vin.
Mais voilà. Vous êtes dans les normes justement, on nous dit qu'un verre par jour c'est exactement ce qu'il voilà, faut boire, ce à quoi on a droit pour...
Voilà, ce à quoi on a droit.
Voilà, c'est ouais, ça. Voilà. Olivier Pouls, vous êtes d'accord avec ça ou pas ?
Moi je pensais que c'était un verre par jour minimum.
Oui, c'est ça. Non. Avec plaisir.
Mais j'aime bien ce que vous avez dit tout à l'heure, comme lapsus, vous avez dit un jour par vin. C'est une bonne, c'est une bonne remarque.
C'est bien aussi.
C'est ça aussi, ouais.
Alors vous avez écrit l'histoire de l'alimentation paru chez Fayard, Jacques Attali. Eh bien Olivier Pouls, lui, s'est penché sur l'histoire du vin. L'histoire du vin, c'est vrai, elle est aussi longue que celle de l'humanité, Olivier. Donc voici le vin en trois périodes, parce qu'on ne peut pas tout raconter en deux minutes. Hein.
Ben oui, l'histoire du vin démarre il y a à peu près 8000 ans, au Néolithique, dans une région du Moyen-Orient. Les premières traces qu'on a retrouvées d'existence de vin se situent dans des montagnes qui sont aujourd'hui en Iran.
Oui, on parle dans le livre.
Voilà, et donc, en fait, c'est la domestication de la vigne, qui est à l'origine une plante sauvage que l'homme va domestiquer, il va la contraindre, il va la tailler, et c'est ainsi qu'elle va donner les fruits, les raisins. Alors, on se doute bien que le vin, à cette époque-là, n'a rien à voir avec ce qu'on boit aujourd'hui. On n'en maîtrise pas le procédé, on ne sait pas le stocker, on ne sait pas le conserver, donc on l'agrémente d'un certain nombre de choses, notamment des épices, on rajoute de la térébenthine pour éviter qu'il ne tourne, et ça c'est vraiment le tout début. Et ensuite, bah, évidemment, le vin va voyager avec les civilisations, l'Égypte, la Grèce, Rome, et de là, évidemment, l'expansion qu'on connaît.
Alors le 19e siècle est un siècle important dans l'histoire du vin, Olivier.
Oui,
aussi.
Alors, période déterminante, c'est le phylloxéra. La fameuse crise du phylloxéra qui démarre dans les années 1850. Le phylloxéra, c'est une petite bête, un petit puceron qui se balade dans les sols et qui mange la vigne par sa racine. Et en une cinquantaine d'années, la totalité du vignoble français et européen va être détruit par ce phylloxéra, cette maladie. On va devoir tout arracher. C'est une crise évidemment majeure. Et la solution, elle va venir des États-Unis. On va trouver là-bas, en Californie, un porte-greffe résistant au phylloxéra. Et c'est ce porte-greffe qui va permettre la replantation par la suite du vignoble français et européen, avec nos cépages bien sûr, qu'on va greffer sur ce fameux porte-greffe. Et c'est grâce à lui que la vigne va renaître. Mais malheureusement, on ne va pas pouvoir replanter la totalité de ce qui a été arraché.
Et puis l'autre siècle important, c'est celui d'après, le 20e siècle, avec ce qu'on appelle l'œnologie moderne. Quoi.
Ben oui, l'œnologie moderne est un homme qui a été très important, qui s'appelle Émile Peynot, qui au lendemain de la Seconde Guerre mondiale va vraiment théoriser le fonctionnement, ce qu'est l'histoire du vin et de sa fermentation. Alors, Gay Lussac et Pasteur avaient compris la fermentation alcoolique, hein, la transformation du sucre en alcool avec ses levures vivantes, mais lui va aller bien plus loin, il va apprendre à la maîtriser, et puis il va découvrir la seconde fermentation, qui est un petit peu technique, qu'on appelle la fermentation malolactique, et ça va donner véritablement naissance au vin contemporain qu'on connaît aujourd'hui.
Et voilà, d'où aussi le retour au vin en biodynamie et au vin nature, peut-être.
Ben c'est certainement ce qui va arriver, c'est qu'on se repenche aujourd'hui sur le vignoble vraiment, et on sait que pour faire un grand vin, Émile Pénaud le disait, il faut de grands raisins.
Eh bien, merci beaucoup Olivier Pouls. Jacques Attali, vous connaissez l'émission, c'est l'heure du questionnaire des bons vivants. C'est parti. Alors Jacques Attali, quel est le goût de votre enfance?
C'est évidemment la cuisine de ma mère, donc c'est le couscous que faisait ma mère, qui reste très attaché.
En Algérie?
En Algérie, oui. Je suis né en Algérie. La cuisine algérienne et marocaine, qui est une... Comme je disais tout à l'heure, la cuisine arabe a été la grande cuisine qui a hérité de la cuisine chinoise et qui a donné la cuisine italienne puis française. C'est une immense cuisine avec une variété incroyable.
Votre plus beau repas dans le sens inoubliable?
Bon, il y en a plein. D'abord, on peut dire que c'est des repas privés, des repas d'occasion émouvante, personnelle, donc je ne parlerai pas, mais... Peut-être un des repas les plus extraordinaires auxquels j'ai assisté, vu à deux reprises, c'est un repas d'État en Inde. Le président indien reçoit d'une façon spectaculaire, incroyable, avec un serviteur derrière chaque convive, avec une plume de 60 cm de haut et qui s'incline exactement tous en même temps, au millimètre près, tout au long du dîner, ce qui fait qu'on a du mal à se concentrer sur autre chose que le balai des serveurs.
On est chatouillé par la plume.
Non, elles sont hautes, on les regarde et... Et c'est un balai incroyable. Et en plus, la nourriture indienne est une... Les nourritures indiennes sont...
Ah, j'adore ça aussi, elle est sublime. Très parfumée, variée, ouais. Et en plus saine, comme on dit.
50, 60 cultures différentes. Culture, agriculture, cuisine différente.
Votre pire repas, Jacques Attali?
Celui qui me vient à l'esprit, c'est très jeune. J'étais invité pour la première fois chez un copain de classe. Et j'ai très impressionné parce que, voilà, c'était des parents importants. Et le malheur veut qu'ils servent des anchois. Et je déteste les anchois. Et je me suis cru obligé de les manger pour ne pas déplaire à la maîtresse de maison qui, quelques mois plus tard, quand je lui ai dit, m'a dit, ben, fallait pas le faire, fallait le dire. Mais être obligé de manger quelque chose qu'on n'aime pas, c'est très difficile.
Le plat que vous ne pouvez pas manger?
Je peux rien manger qui renvoie au serpent. Donc les anguilles, toutes ces choses-là.
Oh, ça va. Ah oui, oui, l'anguille, oui, parce que le serpent, on n'en mange pas tous les jours, mais l'anguille, c'est vrai qu'on en trouve. Dans la Loire, il y en a de belles. Quel plat emmèneriez-vous sur une île déserte?
Ben, d'abord, j'emmènerais de l'eau, parce que c'est quand même vital. Et puis, j'emmènerai des graines.
Il y en a autour en même temps. Si vous avez un petit truc pour dessaler, il y aura de l'eau.
Oui, je pense que j'emmènerai des graines. Donc, des graines de blé.
Pour cultiver.
Voilà.
Qui sont les invités de votre dîner idéal?
Les invités de mon dîner idéal seraient Shakespeare, Dante, Molière et quelques autres. Je les reverrai un jour, je pense.
Ah, c'est beau, du bon monde. Il faudra de beaux interprètes parce qu'ils ne parlaient pas tous la même langue.
Mais non, ça va, ceux-là, je parle leur langue.
Ça va, vous pouvez, vous ferez l'interprète alors. Quel est le dernier plat que vous avez cuisiné, tiens?
Bon, c'est très longtemps. Je me souviens avoir cuisiné des pâtes à la vodka parce que j'ai une amie qui Macha Meryl, qui écrit des livres de cuisine simples.
Qui est d'origine russe.
D'origine russe, mais elle écrit des livres de cuisine italienne.
Et le mot de la fin, FIM, Jacques Attali?
Le mot de la fin, faire en sorte que personne n'en ait.
Ah, c'est un joli mot. Bien, merci d'être venu. On était ravis de vous recevoir. On passerait encore des heures avec vous. Votre livre, Histoire au pluriel de l'alimentation, le plus récent livre de Jacques Attali,
merci.
Paru chez Fayard. Merci à toute la bande de la rédaction. Merci à Jérémy Hébert à la réalisation, Marie Jacquet à la programmation, Lucie Lescourou, dont c'est l'anniversaire. Happy birthday, Lucie Lescourou, notre rédactrice en chef. Merci à Alexandre Couillon aussi de nous avoir fait ce joli plat du jour. Alexandre Couillon sur l'île de Noirmoutier. Vous retrouverez les recettes sur europe1.fr et rendez-vous la semaine prochaine. Même endroit, même heure, de 11h à 12h30, nous recevrons Marc Lavoine. Bon samedi midi sur Europe 1. Bon app, faites le marché, la cuisine et le reste, Justine.
Bon samedi, Laurent, à la semaine prochaine. Et si vous voulez réécouter cette émission, vous le pouvez, hein, bien sûr, sur europe1.fr.